Voilà le thème de notre culte ce matin. Romains 8, versets 28 à 39, c'est la fin de Romains 8. On a parcouru ensemble quatre chapitres, Romains 5, 6, 7 et 8, et on arrive au bout. Alors, je vous pose un petit rappel, quelques petites notions. Donc, je pense que ça marche pas, mais il n'y a pas grand-chose, donc vas-y. Le premier petit rappel, vous vous souvenez qu'on est dans le tome 2, la bonne nouvelle. On est justifié, on est libéré, on a la vie éternelle. Ensuite, on est aussi dans un monde sous la grâce. Tu peux passer la diapositive suivante. Petite image qui vous rappellera des souvenirs, des illustrations. Un monde où Dieu est notre maître et où nous sommes sauvés par Dieu. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Et enfin, dernière, petite image d'il y a 15 jours où on se souvient qu'on est transformé de l'intérieur par l'Esprit de Dieu. Si ces images vous rappellent un petit peu les développements, c'est le but. Voilà des choses qui sont belles, qui sont vives, qui sont joyeuses. Et ces choses-là, on doit les vivre dans un monde qui n'est pas facile. On l'a dit dans toute l'introduction du culte ce matin. Et c'est le contexte de notre texte de ce matin, dimanche dernier, dans Romains 8. On a parlé des souffrances que nous vivons. Parce que notre corps reste mortel à cause du péché, parce qu'on est attaqué comme Christ l'a été. On est moqué, persécuté dans certains pays, même mis à mort. Les souffrances de la terre, elles nous sont visibles. La terre qui a été maudite par Dieu quand Adam a péché, mais qui est comme une double peine ensuite abîmée par des hommes pécheurs, par nous aussi. Et on vit ce tiraillement entre le monde terrestre dans lequel nous vivons et notre appartenance à un autre monde. On est ici, mais on n'est pas d'ici. On pêche alors qu'on n'est plus esclave du péché. On aimerait être ailleurs, dans un monde parfait, avec Dieu, un monde nouveau, un monde qui nous est promis et qu'on attend. Et on souffre dans cette attente, nous dit le texte de Romains 8 qui nous précède. On souffre comme à la naissance d'un enfant. On souffre parce qu'on attend la venue de ce monde nouveau. Et dans ce contexte de souffrance qui a été largement évoqué ce matin, Paul veut nous encourager. Il veut nous encourager et nous rassurer. Et il souligne, on va le voir dans nos versets, que si notre contexte de vie est effectivement difficile, la Bible, ce n'est pas un roman à l'eau de rose où tout va bien, ce n'est pas le monde des bisounours. La Bible nous parle réellement de ce que nous vivons. Et ce que nous vivons, c'est parfois difficile. Et dans ce contexte difficile, Paul insiste sur le fait que Dieu s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Ça sera notre première partie qui dira que Dieu veut et fait tout pour mon bien. Et dans la deuxième partie, on verra la conclusion de Paul, qui peut-être a fait de la boxe, parce qu'il met KO tous les opposants avec cinq questions, et il nous ouvre une perspective absolument magnifique. Nous suivrons le déroulement du texte, et je vous propose de le lire. Est-ce que tu peux passer à la dia suivante? Romains 8, au verset 28. Nous savons, en outre, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Et ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution? La faim? La misère? Le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Finit bien le chapitre 8. Magnifique, un texte magnifique. Et dans notre première partie, nous voyons que Dieu veut et fait tout pour mon bien. 1 plus 5, c'est parce que dans cette première partie, il y a un objectif et ensuite 5 étapes pour y atteindre. Et dans la deuxième partie, on a 5 questions et une conclusion. Donc on a 5 plus 1 et là 1 plus 5. Alors un objectif, Dieu veut mon bien. Ce verset est très connu, on l'a cité encore tout à l'heure, « Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. » Au lieu de solidifier notre foi, ce verset, s'il est mal interprété, peut la fragiliser, comme un dopant qui nous donne de l'énergie momentanément, mais qui, en fait, nous fait du mal au corps. Hors contexte, on pourrait croire, en le lisant rapidement, que finalement, même si un drame survient dans ma vie, c'est en fait une bonne chose. C'est bien et il faut que j'en remercie Dieu avec un grand sourire. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes pour moi. C'est dur, ça ne correspond pas à ce qu'on vit et on passe pour un mauvais chrétien si on ne garde pas le sourire. Hors contexte, ça peut aussi vouloir dire que la vie va être parfaite avec un Dieu si puissant qui veut que tout ce qui arrive concourt à mon bien. Ça va être facile. Et mon bien, eh bien, c'est certainement pas un patron pénible. C'est certainement pas une voiture en panne. C'est pas vivre seul si je souhaite me marier. C'est pas la maladie. C'est pas la mort. On risque fort d'avoir des réveils douloureux. Et peut-être au point de tourner le dos à Dieu, parce que finalement, le Dieu qui n'accomplit pas cette promesse est décevant. Si c'est tout mon espoir qui est en lui pour ça. Un mot qui est important dans ces trois versets, c'est le « en effet » du verset 29. « En effet » parce que les versets 29 et 30 expliquent ce qu'est ce bien dont il est question au verset 28. Et en quoi ça consiste? Nous rendre conformes à l'image de son Fils. Voilà l'objectif du bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment pour les rendre conformes à l'image de son Fils, nous rendre parfaits, nous sanctifier. Au moment de notre conversion, on est tellement conscient de notre péché, on sait que c'est ça, c'est pour ça, c'est pour nous délivrer de la condamnation que Jésus est mort. Et puis, Jésus et Dieu nous comblent de ses bienfaits. Et voilà qu'au lieu d'aspirer au bien, on aspire à un bien-être. Mais ce que nous propose l'Évangile ici, ce n'est pas du bien-être. Ressembler au Fils de Dieu, eh bien, il y a du travail. Il y a du travail en chacun de nous. Et Paul détaille comment Dieu va s'y prendre. Et c'est la deuxième partie de cette première partie. Comment est-ce que Dieu va s'y prendre en 5 étapes ? En 5 étapes qui commencent d'abord dans la pensée divine, ça passe par la réalisation en nous et ça finit par la gloire éternelle. 5 étapes, connaître d'avance, je les ai mis en rouge pour que vous puissiez les voir facilement, connu d'avance, destinée d'avance ou prédestinée, appelée, justifiée et glorifiée. Ce sont des termes qui peuvent faire peur, mais qui ne sont pas tellement complexes. Prenons les deux premiers. Dieu nous a connus d'avance et il nous a destinés d'avance. Les deux premières étapes de ce plan que Dieu met en place pour faire concourir toutes choses à notre bien. Connu d'avance, c'est-à-dire que Dieu a un choix qu'il a conçu dans sa pensée. Et un choix qui conduit à notre prédestination, c'est-à-dire qu'ensuite il a décidé, ce choix, il l'a fixé. Autant le choix que Dieu a conçu, autant que le choix qu'il a décidé, ça se passe bien avant notre existence. Vous avez fait un peu des maths, c'est moins l'infini. Hein ? On est dans moins l'infini parce qu'on n'était pas né. Et puis les trois et quatrième points de son étape, c'est qu'il les a appelés et justifiés. L'appel, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement la réalisation dans notre histoire personnelle de la décision que Dieu a prise avant la création de nous choisir. Il l'a décidé et il le fait quand il nous appelle. Dieu nous appelle, nous répondons par la foi, nous croyons, et Dieu nous justifie. Quatrième étape. Ces termes doivent vous rappeler, si vous avez suivi les chapitres 5 à 8, toutes les notions qu'on a vues avant. À quel point Dieu a tout accompli pour nous. Un Christ qui est mort pour nous, qui est ressuscité et qui, en mourant, nous a justifiés. Cinquième étape, glorifier. Il a glorifié les enfants de Dieu. Comment ? En les ressuscitant, en les élevant au ciel, dans un corps nouveau, dans un monde nouveau. Et cette étape, elle est tellement certaine pour Paul, mais aussi dans les promesses de Dieu, que Dieu en parle au passé, comme si c'était déjà accompli. Alors que les autres actions le sont, effectivement, elles sont dans le passé. Dieu nous a connus d'avance, nous a destinés d'avance, nous a appelés, nous avons répondu. Il nous a justifiés et Paul nous dit, il nous a glorifiés. Parce que c'est sûr, ça va arriver. Ce Dieu qui avance d'une étape à l'autre et qui fait avancer tous les événements dans ce but, ce Dieu va aller au bout de son plan pour nous. Alors, peut-être que certains sont choqués par cette idée que Dieu nous a choisis d'avance. On ne va pas ouvrir, et ce texte n'est pas là pour ça, pour ouvrir un débat sur la prédestination. Quoi qu'il en soit, la parole de Dieu l'affirme. Elle affirme que Dieu nous a choisis d'avance, nous a destinés d'avance au salut. Cherchons plutôt pourquoi est-ce que Paul l'évoque et pourquoi est-ce que la Bible en parle. L'objectif, on l'a dit au début, Paul veut nous rassurer dans ce monde qui nous chahute, qui nous fait souffrir. Alors comment est-ce qu'il nous rassure avec la prédestination ? Nous avons placé notre vie dans les mains d'un Dieu qui gère. Je ne sais pas si ça évoque pour vous quelque chose, ce mot « gère ». Chez moi, oui, parce que les enfants, quand ils avaient un problème et que je voulais mettre mon nez dedans, ils me disaient « non, mais maman, t'inquiète, je gère ». Ça veut dire « voilà, t'as rien à faire, c'est moi qui m'en occupe ». Et effectivement, Dieu gère. On le voit du début jusqu'à la fin. Il domine tous les éléments de notre vie. Et là, on peut être rassuré. Rassurez-vous, nous dit Paul, Dieu s'occupe de tout. Dieu a déjà accompli les étapes dans notre passé, alors on peut être une deuxième fois rassuré. Ce qui va arriver à la fin est certain. Parce qu'on voit qu'il l'a fait jusqu'à maintenant. Comme toile de fond, troisième objet qui va nous rassurer, comme toile de fond, on a les souffrances qui sont inévitablement liées au fait d'être fils de Dieu, tout comme Christ a souffert, nous-mêmes nous souffrons. La terre elle-même semble au bout du bout, et elle gémit après un renouveau, nous aussi. On l'attend avec impatience, on attend l'éradication du péché. Un lieu, un monde où on ne pourra plus pécher. Ça fait vraiment rêver. Alors dans cette toile de fond de souffrance, on pourrait être découragé, inquiet. On l'a dit beaucoup ce matin. on pourrait être inquiet parce que c'est la fin du monde. Et c'est ce qu'on nous annonce. C'est ce que nos compatriotes craignent. Est-ce que vous êtes inquiet? Il y a de quoi quand on regarde? Quand on regarde autour de nous. Oui, moi aussi j'ai des angoisses parfois. Et comment est-ce que ce texte peut nous rassurer? Mettre notre parcours de vie sous nos yeux. Un parcours qu'on voit préparé par Dieu. Avec une fin glorieuse. Une fin magnifique. Ça nous rappelle, cette fin magnifique, qu'on n'est finalement pas dans un service de gériatrie où les souffrances annoncent la fin de vie, la mort. Pas du tout. On n'est pas dans ce service-là. On est à un autre étage, au service pédiatrie. On est là où les enfants naissent et on est à la naissance d'un nouveau monde. Voilà pourquoi ces douleurs sont joyeuses. Pourquoi est-ce qu'on peut les vivre d'une manière différente? Parce qu'on a les yeux fixés sur l'objectif. On n'est pas à la fin du monde. On est à la naissance d'un monde nouveau. C'est quand même différent. Quatrième motif pour lequel on peut être rassuré par cette prédestination, par le fait que Dieu tient toutes choses dans ses mains, c'est qu'on ne peut pas attribuer notre salut à nos mérites personnels. Dieu nous a choisis avant qu'on existe. Peu importe qui nous sommes dans la société humaine, notre salut ne trouve pas son origine dans l'amour de Dieu à notre égard parce qu'on l'aurait mérité, pas dans un favoritisme qui serait lié à un statut social, à des études, à des richesses. Notre salut trouve son origine en Dieu. Dieu sauve des hommes et des femmes sur tous les continents, dans les prisons, dans le monde politique, chez les gilets jaunes, chez les retraités, chez les enfants, chez tout le monde. Et quand on se regarde ici, on voit qu'on est tous dans un milieu différent, avec des origines différentes. Dieu nous a connus d'avance, il n'y a pas de favoritisme et surtout il n'y a pas de mérite de notre part. Et s'il n'y a pas de mérite, c'est que quoi qu'il arrive, si Dieu l'a garanti, il le tiendra jusqu'au bout. Ça ne va pas dépendre de nous. En 3 versets, Paul reprend tous les éléments qu'on a vus depuis les chapitres 5. C'est comme un condensé d'une histoire qui va très bien finir à la fin. Oui, parce que nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. On a vu que Dieu s'occupe de tout. On va voir dans la deuxième partie la conclusion de Paul. Alors d'abord, ces 5 questions qui vont nous situer dans un ring de boxe. Et Paul commence assez fort en disant, maintenant, mais que dire de plus après avoir dit ça? Que dire de plus? Comment conclure après les 5 affirmations qui précèdent? Connu d'avance, destiné d'avance, appelé, justifié, glorifié. C'est comme si l'apôtre lançait ses questions à la tête de l'univers. Est-ce que quelqu'un peut répondre dans l'univers? Mais je crois qu'il les jette aussi à notre face, même au fond de notre cœur, avec toutes nos angoisses. Et c'est à toutes ces craintes que Paul va poser ses questions et va dire « Mais est-ce que vos craintes sont justifiées ?» Non. Pourquoi? Parce qu'à chaque affirmation, à chaque question, il va joindre une affirmation qui est une vérité qui est vraie depuis toujours et qui sera toujours vraie et qui ferme la bouche à quiconque voudrait répondre et l'objectif, c'est que ça ferme aussi la bouche à nos craintes ce matin. Alors, première question. Qui se lèvera contre nous? Si on avait la question seule, on aurait certainement beaucoup de réponses à donner à cette question. Qui est-ce qui peut s'opposer à vous? Oula, mais il y a beaucoup de choses. Dans certains pays, les incroyants, qui vont jusqu'à persécuter les chrétiens. Il y a aussi le péché qui nous tente. Il y a la mort, il y a la maladie. Quels sont les obstacles qui se dressent dans votre vie? Mais surtout, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Rien. Rien. Est-ce qu'on peut lutter contre la mort? Pas bien. Est-ce qu'on peut lutter contre la maladie qui nous atteint? Non plus. En fait, tout est trop fort pour nous. Qui se lèvera contre nous? Mais attention, il y a cette deuxième affirmation, cette affirmation qui suit cette question. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Puisque Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Ce Dieu qui nous a connus d'avance, destinés d'avance, appelés, justifiés, glorifiés, ce Dieu-là, cette toute puissance qu'il faut pour organiser tous les événements qui se passent dans l'histoire, ce Dieu qui a toute cette puissance est avec nous. Et on voit là que cette toute puissance de Dieu, cette prédestination, elle ne fait pas de nous des marionnettes. Elle fait de nous des enfants qui sont protégés par la puissance de Dieu. Jamais personne ne pourra l'emporter contre Dieu. Qui se lèvera contre nous si Dieu est pour nous ? C'est un peu comme dans une cour de récré, hein. C'est mon papa le plus fort. Ah non, c'est le mien. Mais Dieu n'est pas seulement fort. La force sans l'amour, c'est dangereux. Mais l'amour sans la force, c'est insuffisant. Et Dieu nous aime et il a la puissance pour mettre son amour en action. Dieu nous aime et il a la puissance pour nous protéger. Deuxième question, verset 32, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout ? Alors si on avait juste cette phrase, encore une fois, on aurait bien, peut-être on serait gêné pour répondre, parce que finalement on a beaucoup de besoins. Et puis c'est des fois difficile hein, de répondre à nos besoins, à nos attentes. Alors est-ce qu'on peut être sûr que Dieu va tout nous donner ? Mais l'affirmation jointe est « Dieu a déjà donné son Fils pour nous, son propre Fils parfait ». Ça, c'était le don le plus difficile à faire pour Dieu, pour nous sauver. Et Dieu l'a fait. Il a sacrifié son Fils. Alors Dieu fera aussi tout ce qu'il faut, parce que ça sera toujours plus facile que de donner son Fils en sacrifice. Il fera tout ce qu'il faut pour notre bien. Notre bien du verset 28. Attention, on est d'accord que ce n'est pas notre bien-être, mais pour notre bien, pour notre sanctification, notre lutte contre le péché dans notre vie. Dieu va agir pour notre bien. Finalement, qui peut le plus, peut le moins. Et c'est le cas pour Dieu. Il a sacrifié son Fils. Donc il nous donnera aussi tout pour aller jusqu'au bien qu'il a fixé comme objectif pour nous. Qui se lèvera contre nous ? Comment ne nous donnera-t-il pas tout aussi ? Et troisième question, qui accusera encore les élus de Dieu ? On est un peu au tribunal. Est-ce que quelqu'un veut accuser les élus de Dieu ? Eh bien là, on aurait des idées aussi. Hein ? Si moi je m'écoute, j'ai beaucoup de réponses. Alors il y a bien sûr Satan qui est le père du mensonge et qui nous accuse, et notre conscience aussi, qui me dit « Mais attends, Annick, tu es morte au péché ? C'est ça que tu dis ? Toi, tu es morte au péché ? Regarde, tu pêches encore. » Mais alors, si tu pêches encore, peut-être qu'en fait, tu n'es pas sauvée. Mais est-ce que tu es sûre que Dieu va t'aimer encore avec ce que tu as fait ? Qui accusera encore les élus de Dieu ? Peut-être que vous avez aussi ces pensées vous-même. Mais l'affirmation, elle est là aussi pour contrer cette question. Dieu lui-même les déclare justes. Alors la condamnation tombe. Si Dieu qui a donné la loi dit qu'à la lumière de la loi et de l'acte de Jésus, nous sommes justes, qui peut nous condamner ? Personne. Personne ne peut nous accuser. Et la deuxième question qui s'en rapproche, qui les condamnera ? Qui les condamnera ? Notre cœur, bien souvent, on l'a dit, nos pensées. Mais voilà la réponse. Mais Christ est mort pour notre péché qui nous condamnait. Christ est ressuscité, nous dit Paul. Et oui, il est plus fort que la mort et le péché. Il prouve que notre espérance et notre confiance en lui ne seront pas vaines. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est à la droite de Dieu, nous dit le texte. Christ est élevé à la droite du roi, c'est une place d'honneur, comme un dauphin. Et Christ intercède pour nous. Christ est notre avocat, il plaide notre cause devant Dieu par sa présence, par ses mains percées, son corps qui a souffert, il garantit notre salut. Avec un tel sauveur, mort pour nous, ressuscité, élevé, qui plaide notre cause auprès de Dieu, qui peut nous condamner ? Personne. Quatre questions qui amènent à la dernière. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ ? Ce serait terrible, n'est-ce pas ? Être arraché à l'amour de Christ, ne plus être aimé par Dieu. Paul fait une liste de réponses possibles. Il évoque toutes les possibilités qui peuvent se présenter et qui pourraient, ou en tout cas qu'on pourrait évoquer, comme étant assez puissantes pour nous arracher à l'amour de Christ. Il parle d'abord d'un monde sans Dieu, où nous vivons la détresse, l'angoisse, la persécution. Je l'ai dit au début, la Bible ne parle pas d'un monde de bisounours, où tout va bien, où nos souffrances n'existent pas. Paul les cite, elles sont vraies et elles sont vécues. On peut être dans la détresse, on peut être dans l'angoisse, tout comme on peut être persécuté. C'est difficile, ces situations pourraient nous pousser à nous rebeller contre Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ne nous évite pas de telles épreuves ? Paul nous dit que ces situations existent, qu'elles ne sont pas une malédiction de Dieu, qu'elles sont dans ce monde sans Dieu. D'autres situations que Paul évoque, celles d'une vie de dénuement dans notre vie quotidienne, quand on subit la faim, la misère, manque de nourriture, manque de vêtements, d'argent. Or, souvenez-vous de Matthieu, Jésus les a promis aux enfants du Père. Alors si on est dans le dénuement, ça pourrait vouloir dire que Dieu ne prend pas soin des siens. Voilà comment de telles situations pourraient nous faire douter de Dieu, de notre confiance en lui. Enfin, l'apôtre parle encore d'autre chose. Il dit que nous pouvons être menacés, le danger, l'épée. Menace de mort ou mort elle-même en martyr, quelle épreuve pour notre foi. Et pourquoi ? À cause de la méchanceté des hommes, du péché. Est-ce que, c'est la question que pose Paul, est-ce que toutes ces épreuves sont trop fortes pour notre foi ? Pour cette foi que Dieu garantit ? Est-ce qu'elles peuvent nous arracher à l'amour de Christ ? Est-ce qu'elles peuvent nous faire douter au point de nous séparer de Dieu? Non. Et voilà l'affirmation qui vient dans cette dernière partie. Tu peux la mettre. C'est l'affirmation de Paul. Non. Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voilà la réponse de Paul à toutes ces questions. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Christ a prouvé son amour par ses souffrances. C'est pourquoi nos souffrances ne peuvent pas nous séparer de son amour. Il prend soin de nous. Encore une fois, autant le verset « Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime » peut être mal compris, ce verset aussi peut être mal compris. Nous sommes bien plus que vainqueurs dans tout cela par celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas vainqueurs de toutes ces choses. Nous sommes vainqueurs dans toutes ces choses. Nous ne sommes pas vainqueurs de toutes ces choses en ce sens qu'elles ne vont pas disparaître. Comme ça. Elles sont notre lot. Paul les mentionne. On en a encore parlé ce matin. C'est un fait. Elles font partie de notre vie. Être victorieux, être vainqueur dans toutes ces choses ne veut pas dire ne pas souffrir. Ne veut pas dire s'en détacher, les ignorer, faire l'autruche. Non. Alors un exemple de ce que ça ne veut pas dire et qui peut finalement nous faire du mal. Si l'on pense qu'on va avoir la victoire sur tout ce qui m'arrive, sur tout ce qui arrive de mauvais, peut-être des péchés tenaces, des situations extérieures compliquées, et qu'il suffit que je m'appuie sur Dieu et alors ma vie va devenir une succession de victoires. Et je vais mettre mes trophées sur ma cheminée les uns après les autres, parce que je vais tout vaincre. Un collègue que je ne supporte pas, je prie et instantanément Mon cœur va être rempli d'amour et ce collègue va être joyeux et gentil. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Je dois me débarrasser de telle dépendance? Je prie et paf, je peux me trouver à côté de quelqu'un qui en consomme et ça ne me fait plus rien. Alors on sait que Dieu agit, que Dieu répond à nos prières et qu'il intervient dans des situations précises. Oui, c'est vrai. Mais ce texte nous rappelle que la victoire qui nous est assurée, ce n'est pas celle-ci. Elles nous sont données en grâce supplémentaire. Mais la victoire dont il est question ici, c'est d'être victorieux dans toutes ces choses. Parce que être victorieux dans toutes ces choses, c'est arriver, c'est le fait que l'amour de Dieu continue à remplir notre cœur. C'est ça la victoire, c'est la persévérance jour après jour. Pourquoi ? Le but ultime, vous vous souvenez ? Être conforme à l'image de son Fils, c'est ça qu'on vise. Ça ne va pas être le bien-être quotidien. Par grâce, Dieu solutionne des situations d'une manière absolument formidable, c'est vrai. Et on peut continuer à prier pour ces choses pour lui. Mais fondamentalement, la première chose dont il est question dans ce texte, cette victoire, c'est le fait qu'il va nous garder fidèles, persévérants dans notre amour pour lui. C'est lui qui est le garant de notre persévérance. C'est lui qui nous tient et il ne nous lâchera pas. Parce que Christ, lui, il est le vainqueur de toutes ces choses. Lui a eu la victoire, il a mené la bataille et il l'a gagnée à la croix. Et il nous fait bénéficier de cette victoire. Par Christ, il nous associe. Et nous pouvons aussi, par son amour, savoir qu'aucune des situations ne nuira, n'abîmera notre relation avec Dieu. Notre persévérance est garantie. Et Paul insiste avec un résumé très fort aux deux derniers versets, 38 et 39. J'en ai l'absolue certitude. Paul va citer tout ce qui peut appartenir à notre monde et qui pourrait nous nuire. La mort, c'est une épreuve, la mort. La vie. La vie aussi parfois a ses épreuves et ses malheurs. Les forces surnaturelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Le temps, avec l'usure. L'espace, peut-être qu'on est trop loin de Dieu à certains endroits. Mais Paul dit finalement rien, rien, rien dans toute la création. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Un amour qu'il a manifesté historiquement dans la mort de Christ à la croix, à un moment précis, et un amour qui est versé dans notre cœur par l'Esprit. C'est un texte qui finit admirablement ces chapitres où Paul résume toute l'œuvre de Dieu dans notre vie et même avant notre naissance et jusqu'à notre glorification éternelle, notre vie éternelle. Et il nous dit, rassurez-vous, Dieu s'occupe de tout. C'est ça la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Je vous propose pour finir une petite parabole que j'ai lue dans un livre qui est raconté depuis longtemps, semble-t-il, et qui met en valeur cet amour de Dieu et le soin qu'il prend de nous en toutes choses et jusqu'au bout. Il était une fois un roi qui, regardant par la fenêtre, aperçut l'un de ses enfants qui cueillait des fleurs dans un champ au loin. Le roi vit l'enfant cueillir les fleurs et les entourer d'un ruban aux couleurs royales. Il sourit, car le ruban signifiait que les fleurs lui étaient destinées. Elles étaient un cadeau destiné à lui plaire. Le roi remarqua ensuite que l'enfant, parce qu'il était encore jeune, ne cueillait pas que des fleurs. De temps en temps, il ajoutait aussi quelques mauvaises herbes et du lierre qui poussait en bordure de forêt, ainsi que quelques chardons au bord des fossés qui n'avaient pas été tondus. Pour aider son enfant dans son travail, le roi confia une mission à son fils aîné, qui était assis à sa droite. Le roi lui dit « Va dans mon jardin et cueille quelques fleurs parmi celles qui y poussent. Puis lorsque ton frère viendra devant mon trône avec son cadeau, ôte de son bouquet tout ce qui est inapproprié pour mon palais. À la place, ajoute les fleurs que j'ai cultivées. » Le fils aîné fit exactement ce que son père lui avait demandé. Lorsque son jeune frère arriva devant la salle du trône, il ôta les mauvaises herbes, le lierre et les chardons, et les remplaça par les fleurs du jardin royal. Puis le fils premier-né enroula de nouveau le ruban autour des fleurs, afin que son frère puisse présenter son cadeau au roi. Avec un sourire radieux, le jeune enfant entra dans la salle du trône et présenta le bouquet en disant « Voici, mon père, un beau bouquet que j'ai préparé pour vous. » Ce n'est que plus tard qu'il comprit que son père, dans sa grâce, avait lui-même fait en sorte de rendre son cadeau acceptable. Quand nous nous tenons devant Dieu dans la salle du trône céleste, tout ce que nous donnons à Dieu est rendu juste par l'œuvre de Christ qu'il a accomplie pour nous. Les fleurs de Christ sont offertes par la grâce de Dieu. C'est sa grâce qui lui rend les bouquets de notre vie acceptables et agréables. Dieu s'occupe de tout. Il a tout fait pour cela, de moins l'infini à plus l'infini. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Amen. Je te laisse la parole.